Les podcasts du Collège de France, littérature.
La dernière fois, nous avons étudié les convergences, mais surtout les divergences, entre la quête du Graal d'une part, de l'autre, le pèlerinage dans sa nature et son principe, et certains pèlerinages qui figurent dans les romans du Graal et que nous avons analysés. Et pour cette séance, qui est la dernière séance du cours à Paris, nous allons comparer la figure du Miles Christi qui s'impose avec l'image de la chevalerie que donnent les romans du Graal et les jugements qu'ils portent sur elle. Et cela nous ramènera en conclusion à Simone Veil, dont nous étions partis, et à son extraordinaire acuité touchant le sens du Graal et la nature de sa quête. Alors, évidemment, le thème d'aujourd'hui n'a rien de neuf et je ne suis pas particulièrement bien placé pour le traiter. La lente et progressive imprégnation religieuse de l'idéologie chevaleresque, de la représentation de la chevalerie, de la définition de sa mission, de ses pratiques, de la cérémonie de l'adoubement, etc. Tout cela a été très souvent et très bien analysé par de très grands historiens du passé ancien ou récent, ici même par Georges Duby, bien entendu, mais aussi plus récemment et dans des perspectives parfois très différentes, par Jean Flory, par Dominique Barthélémy, par bien d'autres. Et donc, je ne reprends pas ici cette question, je n'ai pas qualité pour le faire. Les croisades, les ordres religieux et militaires dont elles ont entraîné l'apparition, les Templiers, les Hospitaliers, les Chevaliers Teutoniques, la caution même réservée, nous le verrons, que Saint Bernard a donnée à ces ordres dans son De Laude Novae Militiae, éloge de la nouvelle chevalerie, qui a été composé vers 1135 à la demande insistante de Hugues de Pince, le fondateur des Templiers, mais aussi le rituel religieux assorti d'obligations morales qui a fini par accompagner l'adoubement du nouveau chevalier, l'esprit qui anime certaines chansons de gestes, même beaucoup de chansons de gestes, tout cela a accrédité l'idée que la chevalerie était ou pouvait être une institution chrétienne chargée de valeurs et d'une mission spirituelle. Et on a cherché à la chevalerie des justifications scripturaires, essentiellement dans le personnage de Judas Maccabée. Innocent III compare les chevaliers teutoniques aux Maccabées, et Judas Maccabée, à la fin du Moyen-Âge, devient un des neuf preux. Vous savez, il y a neuf preux, trois de l'Antiquité biblique, trois de l'Antiquité classique, trois de l'âge moderne. Et cette justification scripturaire se fonde surtout sur le fait qu'on commet à partir du texte de la Vulgate, ou sur le texte de la Vulgate, un faux sens opportun, un faux sens sur le sens de militia ou de miles, qu'on comprend anachroniquement dans le sens qui est le leur dans le latin du temps, où il désigne les réalités proprement médiévales que sont la chevalerie et le chevalier, et aussi les qualités qui sont celles du chevalier. Il est remarquable que la première occurrence du mot chevalier dans la plus ancienne des chansons de gestes, qui est la chanson de Roland, « Mon chevalier » apparaît au vers 25, et c'est un adjectif. Il est très chevalier. Pour dire, par son vasselage, par sa vaillance, il est très chevalier. Et donc, il a les qualités du chevalier. Et alors, pour en revenir donc à la Vulgate, le passage le plus volontiers invoqué, c'est la citation bien connue du livre de Job, 7.1, « Militia est vita hominis super terram », la vie de l'homme sur terre est un combat. Citation pourtant très bien comprise, puisque une variante très fréquente de cette citation est « temptatio est vita hominis super terram. On comprend très bien que ce combat, c'est le combat contre le mal, contre la souffrance et contre la tentation, que la lutte, c'est la lutte contre les tentations pour gagner le salut. Mais dans d'autres contextes, et en regardant le militia, on comprend militia au sens strict et anachronique de chevalerie, exercice du métier de chevalier. De même, évidemment, on a tiré argument des développements métaphoriques ou allégoriques de saint Paul sur les armes et le combat du combattant de la foi. « Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, ayant toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais, vous voyez, les flèches ou les javelots enflammés du mauvais, et on pense à ce chevalier noir à la lance enflammée au début du Perlesvos, dans un passage que nous avons étudié la dernière fois, et qui est évidemment une allusion, une sorte d'incarnation de ce passage. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dans les Éphésiens, dans 1 Thessalonicien, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Et alors, de l'interprétation métaphorique à un retour à l'interprétation littérale, il n'y avait naturellement qu'un pas. Nous avons vu brièvement que ce faux sens sur Milès est d'une certaine façon fondateur de la légende chrétienne du Graal, puisque dans le roman de Robert de Boron, on nous dit que Joseph d'Arimathie était un chevalier de Pilate. Et comme il avait servi Pilate pendant longtemps, il avait donc fait le service d'hoste, il avait rempli le rôle, il avait droit à une récompense, à un salaire, à une soldée, une soudée, recevoir des sous, ce qui a donné le mot soldat. Et comme soudée, comme récompense, comme salaire, il demande le corps du Christ qui vient d'être crucifié. C'est comme ça qu'il le récupère. Pilate trouve que ce n'est pas très cher pour tous les services qu'il lui a donnés, mais il le lui donne. Mais cet échange dont Pilate ne mesure pas la valeur ne prend sens dans le contexte du roman que parce que Joseph d'Arimathie est défini comme Milès, traduit dans ce roman français par chevalier, et que Robert de Boron se représente un chevalier comme ceux qu'il connaît, comme il l'est lui-même, un chevalier qui, comme il va le faire, ou comme il venait de le faire, selon la date du roman, accompagne son seigneur à la croisade et se fait payer pour ça. Et alors, cette interprétation de Milès appliquée à Joseph d'Arimathie permet de justifier que la quête du Graal soit une quête chevaleresque à partir de ce métier de Joseph d'Arimathie qui était lui-même un chevalier de Pilate. La quête du Saint Graal dit Joseph d'Arimathie le bon chevalier. Donc il y a d'une part le fait que le Graal est confié à un chevalier et à la lignée ultérieure de ce chevalier, et d'autre part, les exigences de cette sorte de colonisation, évangélisation des îles bretonnes dans laquelle sont entraînés ces gardiens du Graal. Ces renforts scripturaires pour justifier que ces romans à tonalité spirituelle soient en même temps des romans de la chevalerie, ces renforts scripturaires qui viennent à la rescousse de la chevalerie sont d'autant plus nécessaires que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Église, à la même époque, ou même un peu avant ces romans, ne considère nullement les chevaliers avec faveur. Les revues des États du monde, on dit donc qui passent en revue les différents statuts sociaux, les prélats, les moines, les prêtres, les clercs, les marchands, les chevaliers, les paysans, etc. Bon. Et ces revues du monde qui peuvent prendre plusieurs formes, des sermons artificiels qu'on appelle des sermones ad status, comme des espèces de modèles de sermons s'adressant uniquement aux chevaliers, uniquement aux marchands, mais de la même façon, parce qu'on mélange vices et vertus et statut social, uniquement aux luxurieux, uniquement aux vierges, uniquement aux veuves, etc. Donc, les sermones ad status, des textes comme au XIIe siècle, le livre des manières d'Étienne de Fougères, qui est une sorte de poème, revue des états du monde, extrêmement intéressant, l'Elucidarium, l'Elucidarium d'Honorius Auguste de Nensis, dont nous avons déjà parlé, que j'ai déjà cité. Tous ces textes leur reprochent leur violence, leur cupidité, leur débauche, et les condamnent. Par exemple, voilà, je le lis uniquement en français, enfin, pour gagner du temps, ce qu'en dit l'Elucidarium, dans la section du livre 2 qui traite des états du monde, le disciple, que penses-tu des chevaliers ? Le maître, parum boni, pas beaucoup de bien, peu de bien, parum boni. Ils vivent de pillage, ils se vêtent de leurs rapines, et c'est ainsi qu'ils amassent des possessions, c'est ainsi qu'ils achètent des bénéfices. Ils dévastent les églises, oppriment les veuves et les orphelins, punissent les innocents de la prison et du fouet, sont tout enflés de superbe et du désir du bien d'autrui. Toutes leurs pensées sont dirigées vers le mal. Ils sont menteurs et parjures, ils sont adonnés à toutes les vanités. C'est d'eux qu'il est dit, ils ont terminé leur jour dans la vanité. C'est pourquoi la colère de Dieu s'amasse contre eux. Les deux dernières citations, respectivement tirées du psaume 78 et du psaume 77. Bon. Et le jeu de mots si facile, militia, malitia, militia, malicia, voilà, chevalerie, méchanceté, ce jeu de mots est extrêmement fréquent et on le trouve même sous la plume, si je puis dire, du pape Urbain II, qui est, comme vous le savez, le pape qui a lancé la première croisade et qui, en donnant le signal des croisades, récupère, si on peut dire, la chevalerie au service de l'Église. Ce sont cependant les croisades, je disais, qui permettent la rencontre de l'idéologie chevaleresque et de celle de l'Église, rencontre illustrée par la création des ordres religieux militaires. Mais les réticences ne disparaissent pas pour autant. Je l'avais dit en début, à propos de ces romans du Graal, naturellement, on est amené à invoquer saint Bernard à cause de l'influence cistercienne repérée par Étienne Gilson et dont on a affiné l'analyse depuis dans La quête du Saint Graal, mais aussi dans d'autres romans, dans Peresvaux, c'est probablement déjà chez Chrétien. Donc on est amené à saint Bernard et on dit bien sûr saint Bernard, l'éloge de la nouvelle chevalerie. Mais cet éloge est plein de réticences. Bernard commence par rappeler qu'il a refusé à plusieurs reprises d'écrire ce traité. Il dit évidemment qu'il a refusé d'écrire ce traité par le sentiment de son indignité. Bien sûr, bien sûr. Enfin, il a la plume plus facile dans d'autres circonstances. Et qu'il finit par céder, mais il ne laisse pas ignorer qu'il finit par céder devant l'insistance duc de Pince. Et après ce prologue, l'ouverture du traité lui-même est sonore, parce qu'on retrouve le style de saint Bernard. « Novum militiae genus tu per auditur interis et in illa regione quam olim incarne praesens visita vit oriens ex alto » Une chevalerie d'une espèce nouvelle, toute la terre en reçoit connaissance, vient de naître, et cela dans cette région qu'autrefois le soleil levant présent dans la chair a visité d'en haut. Mais cette emphase, pourrait-on presque dire, ne réussit cependant pas à dissimuler que dans la suite du traité, Bernard parle à peine de la mission militaire des Templiers et presque uniquement de leur combat spirituel avec lequel il la met en parallèle et dans lequel il l'englobe. Cette mission militaire, c'est le monnayage, en quelque sorte, ou un des aspects de ce combat spirituel qui est l'essentiel. Et la métaphore du combat, et la métaphore de l'armement du chrétien, qui permet ailleurs d'embrigader, si je puis dire, pour l'éloge de la chevalerie, les développements de saint Paul, sert ici à atténuer cet éloge de la chevalerie. La chevalerie célestielle opposée à la chevalerie terrienne, cette opposition qu'on trouve dans les romans du Graal, j'y reviendrai dans un instant, c'est avant tout le combat spirituel que mène tout chrétien. Et aussi bien, dès qu'il le peut, Bernard quitte ce terrain où il est peu à l'aise. Après tout, il a lui-même arraché son frère Gérard à l'état chevaleresque pour le faire entrer dans le cloître, en lui représentant qu'il perdait son âme en restant chevalier, et il dévie vers une description de la Terre Sainte qui occupe toute la fin de l'ouvrage, qui en fait occupe les deux tiers de ce traité et qui n'a rien à voir avec un éloge de la chevalerie chrétienne. Et on aurait tort de croire que les réticences de saint Bernard lui sont personnelles et que les nouveaux ordres adoptent sans réserve ni scrupule les usages et les valeurs de la chevalerie. Ben, ces nouveaux ordres eux-mêmes ont des scrupules. La bulle Omne Datum Optimum de 1139, et qui est destinée aux Templiers, interdit d'imposer aux ordres militaires un serment de fidélité ou d'hommage, c'est-à-dire interdit de les intégrer à la société féodale, interdit de les faire fonctionner dans le système habituel de la chevalerie. Il est spécifié que la largesse et la fréquentation des tournois sont interdites aux ordres militaires. Or, ce sont les deux grandes qualités, les deux grands traits de comportement de la chevalerie, y compris dans les romans du Graal, y compris pour les plus spirituels de ces chevaliers. Même Galahad ne va pas si loin dans le renoncement à la vie chevaleresque. Et il est si peu permis à ces religieux des ordres militaires de se transformer en chevalier errant, hein, donc le modèle du quêteur du Graal, le modèle personnage littéraire dans tous ces romans, ce modèle inventé par Chrétien, il aurait si peu permis de se transformer en chevalier errant que la règle des chevaliers teutoniques, par exemple, leur interdit de passer la nuit hors d'une maison de l'ordre, alors que le chevalier errant passe toujours la nuit partout. Quoique, quand on a cela à l'esprit, on s'aperçoit, en relisant les romans, que dans la quête du Saint Graal et même dans Perlesvos, si l'on passe la nuit ailleurs que chez un ermite ou dans un monastère, on met aisément son corps, mais aussi son âme, en danger, et que un des signes de l'élection est que les bons chevaliers trouvent toujours un ermitage, un monastère le soir, ou à peu près. Mais il faudrait, ça ne marche pas tout de même absolument à tout coup. Et d'ailleurs, inversement, et donc tout ça pour dire que ce sera mieux de rien vous dire, on chercherait en vain un indice qui suggérerait que les ordres religieux militaires se soient eux-mêmes intéressés à la légende du Graal, ce qui était possible après tout, puisque ça leur offrait un modèle gratifiant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Justement, en 1312, un chevalier teutonique qui s'appelle Heinrich von Hessler traduit en allemand pour ses frères l'évangile de Nicodème. Alors, évidemment, on est proche à cause de Robert de Boron. Mais, enfin, c'est pas un roman du Graal, même si c'est le fondement de Robert de Boron, et Dieu sait que les traductions de ce texte sont nombreuses, indépendamment de toute référence au Graal. Un détail minuscule, mais dont il n'y a probablement rien à tirer, l'inventaire fait en 1273 de la bibliothèque d'une maison des Templiers en Angleterre, à Denay, mentionne, bon, la bibliothèque est modeste, ce n'était pas des ordres particulièrement intellectuelle, mais donc il y a 4 psautiers, 2 antiphonaires, 2 tropaires, etc. Et il y a 3 graduels. Mais l'inventaire appelle ces graduels des graals. Alors, vous me direz, c'est conforme à l'étymologie, gradalis, gradualis, pour le graduel, tout ça, c'est bien naturel. C'est naturel, sauf qu'il y a une anomalie phonétique qui existe aussi, d'ailleurs, dans le mot graal, qui est que la forme attendue est graël. Quand on veut dire graduel en ancien français ou, en la circonstance, en anglo-normand, on dit graël. Et graël est... est attesté, pas très très souvent, mais enfin il y a un certain nombre d'attestations de Graël en anglo-normand. Tandis que Graal, pour un graduel, ne se trouve nulle part. Mais en dehors, alors, est-ce que c'est le signe d'une attraction, d'une fascination ? C'est bien hypothétique, et de toute façon, on ne voit pas trop ce qu'on peut en tirer, guère plus que du plus tard, du fameux Saint Graal, au lieu de Saint Graal, du roi René d'Anjou. D'une façon générale, l'association de la chevalerie et de la sainteté, en résumé, se fait toujours au profit du combat spirituel. Et elle s'accompagne bien rarement d'un véritable éloge de l'univers chevaleresque. Il y a eu récemment, un article très intéressant de Catherine Allen Smith qui s'appelle « Saints in Shining Armor », « Des saints en armure resplendissante ». Et la suite du titre est « Ascétisme martial et modèle masculin de sainteté vers 1050-250 » dans « Speculum » de juillet 2008. Et alors, quand on regarde ces « Saints in Shining Armor », alors on trouve bon, d'anciens chevaliers qui ensuite sont entrés en religion, on trouve de temps en temps un saint qui a combattu, etc. Mais généralement, on trouve des développements autour du combat spirituel. Et quand il y a un vrai chevalier quelque part, et il est récupéré pour ça. Jamais on ne dit que ce sont ses combats en tant que tels qui lui ont valu la sainteté. Donc l'article lui-même apporte une sorte de démonstration. En revanche, si on se tourne vers les romans du Graal, en gardant à l'esprit, non, ce n'est pas un roman, c'est en confirmation, si on se tourne vers les romans du Graal, en gardant à l'esprit la réticence constante de l'Église à l'égard de la chevalerie, sans exception même des ordres religieux militaires pour lesquels Galahad pourrait être un modèle, eh bien, on croit percevoir que ces romans même n'exaltent pas la chevalerie autant qu'ils semblent et qu'ils n'en font pas autant qu'ils semblent, ou du moins, dans les conditions qu'on pourrait croire, la voie d'élection pour parvenir, sinon au Graal, du moins à la grâce qu'il promet. On a l'impression, en lisant ces romans, que voilà, ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est d'être chevalier, d'appartenir au lignage du Graal, de se lancer dans la quête du Graal et d'y arriver en tant que chevalier, par les armes, en quelque sorte. Et quand on regarde dans le détail, cette belle image s'effrite. Et nous avons déjà eu l'occasion de le voir. Quand nous lisons toujours le conte du Graal de Chrétien III, en considérant qu'il ne faut pas attacher d'importance l'aversion de la mère de Perceval pour les chevaliers et aux propos qu'elle lui tient au début du roman. Et, mais est-ce si sûr ? Quand elle lui dit, tu as vu, je crois, Perceval lui dit, ah, j'ai vu des anges. Et elle comprend tout de suite. Et elle lui dit, tu as vu, je crois, les anges dont les gens se plaignent, qui tuent tout ce qu'ils atteignent. Eh bien, elle dit la même chose que les Lucidarium, ces chevaliers violents que décrivaient quelques décennies plus tôt les Lucidarium. C'est cela. Est-ce que donc Perceval est fidèle à son idée et il la quitte pour être chevalier ? Alors, on lit le roman en disant, ben, évidemment qu'il a raison. S'il restait auprès de sa maman, il n'arriverait jamais au château du Graal. Mais est-ce si certain qu'il a raison, Parce qu'en quittant sa mère, il provoque sa mort. Et c'est le péché de la mort de sa mère, c'est explicitement dans le roman, qui l'empêche, qui lui noue la langue au château du Graal, qui l'empêche de poser la question. En réalité, nous le savons, il y a deux choses. Il y a comme deux séries causales différentes et à des niveaux différents qui finissent par converger. Il y a en profondeur le péché de la mort de sa mère. Et il y a, dans sa consciemment de sa part, le souvenir de l'enseignement de Gornement de Gore, qui lui a dit que pour être chevalier, il faut être bien élevé, et quand on est bien élevé, on ne pose pas des questions tout le temps quand on est chez les gens. Et c'est pour ça qu'il ne pose pas la question. Et alors, on a l'impression qu'il n'y a pas de relation, qu'il y a une relation souterraine, mystérieuse, mais non logique, entre le péché de la mort de sa mère et la mauvaise utilisation du conseil de Gornement. Et on le pense parce qu'on fait pas attention. On est comme Perceval, on ne fait pas attention à ce qu'a dit sa mère. Mais si on adopte un instant l'hypothèse selon laquelle sa mère avait raison, eh bien, si sa mère avait raison, tout s'éclaire. Il a eu tort de partir et l'éducation chevaleresque qu'il a reçue lui a fait du tort. Et on le voit si bien, nous l'avons vu dans un certain détail en expliquant le début de la scène du Vendredi Saint, lorsque les 5 ans qu'il passe hors de lui-même et sans penser à Dieu sont les années pendant lesquelles il est le meilleur chevalier. Il ne cesse de remporter des victoires sur ses adversaires. Ça n'avance à rien, ça le fait reculer. Alors évidemment, on ne peut pas pousser le paradoxe trop loin, puisqu'on admire tout de même Perceval d'être devenu un si bon chevalier, d'être devenu chevalier de la table ronde. Gauvin est admiré. Tout ce monde est présenté de façon flatteuse et admirable. Mais enfin, on ne peut pas récuser le témoignage de la mère. On ne peut pas en faire grand-chose non plus, parce qu'elle n'est pas explicite sur l'affaire de la mort de son mari et des frères aînés de Perceval. Et on a soupçonné, peut-être à juste titre, une sorte d'histoire édipienne, mais donc qui embarque dans une direction fort, fort différente. Mais enfin, ce n'est pas un personnage dont on puisse récuser le témoignage. Et comme le roman est inachevé, on ne sait pas ce qui aurait été finalement porté au crédit de Perceval et de Gauvin, parce que Gauvin était certainement associé quelque part, si je puis dire, et ce qui leur serait reproché. Quant à la quête du Saint Graal elle-même, est-ce qu'elle valorise tant que cela ? Est-ce que la quête du Saint Graal valorise tant que cela la quête du Graal ? Au début, le vœu de Gauvin qui entraîne tous les autres, ce vœu de partir en quête du Saint Graal pour un an afin de le voir plus apertement, de le voir plus ouvertement, plus clairement. Est-ce que ce vœu est légitime ? Je vous rappelle le contexte de ce vœu. La cour du roi Arthur est réunie pour la Pentecôte. Ce même jour, Galahad sera conduit à la cour. Est réunie pour la Pentecôte, et comme le jour de la Pentecôte des apôtres, les portes sont fermées, on le précise, et le Graal apparaît sur la table et les sert tous, leur donne tous à manger, et chacun mange, a l'impression de manger le mets qu'il préfère. C'est-à-dire qu'ils sont rassasiés et qu'ils connaissent la béatitude. Vous me direz la béatitude digestive, mais enfin, ils sont encore en ce monde, n'est-ce pas ? On a ce qu'on peut en ce monde, par l'arrivée du Graal, ce Graal dont on dit dans le roman, c'est le Saint Graal, c'est la grâce du Saint-Esprit. Donc on dit spécifiquement que la venue du Graal le jour de la Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. Une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit, on part en mission, si je puis dire. Mais à quoi ça rime de dire « Ah oui, il était sur la table, mais je ne l'ai pas bien vu, je veux partir pour un an pour le retrouver et le voir mieux, Saint Graal ». Ça n'a pas de sens. Enfin, encore, j'exagère beaucoup. Mais alors que le roi Arthur a été, comme tout le monde, ébloui par la venue du Saint Graal sur la table ronde, il a considéré, et à juste titre, que c'était l'apogée de la table ronde, puisque la table ronde était devenue la table du Graal et qu'il y avait eu rencontre entre les deux tables. Il y a la table de la dernière scène et puis la table du Graal, la table ronde. Il y avait une rencontre. La table ronde devenait la table du Graal. Donc le roi Arthur était au comble de la joie et les propos de Gauvin qui dit « je fais vœu de partir pour un an, pour le voir, voir le Graal plus apertement », et qui entraîne tous les chevaliers de la table ronde, n'entraîne aucune satisfaction chez le roi Arthur. Le roi Arthur est désespéré, et il fait des reproches violents à Gauvin. Il est dans la douleur et dans les larmes, et il prononce une plainte extrêmement émouvante en disant « Je ne reverrai plus jamais tous les chevaliers de la table ronde autour de cette table. Cette quête sera un désastre. Et beaucoup trouveront la mort dans cette quête. » Ce qui va effectivement se passer. Donc le versant proprement chevaleresque et le sujet même du roman est condamné dès le départ. Alors, vous me direz, est condamné parce que c'est Gauvin qui, lui, à cause de ses multiples péchés, ne pourra pas réussir dans cette quête et il vaudrait mieux que Galade s'en charge seul ou que les futurs élus s'en chargent seuls. Ce qui est parfaitement vrai. Mais à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de quête du Graal. Si ceux, seuls les. Si seuls les gagnants tentent leur chance, si je puis dire, ce n'est plus le même système. Et dans la quête du Saint Graal, l'expression, donc dans ce même roman, l'expression chevalerie célestielle, qui revient à plusieurs reprises, cette expression est elle-même ambiguë, parce qu'elle désigne tantôt les chevaliers qui font la volonté de Dieu, tantôt les milices célestes, les anges. Et lors de cet épisode capital, qui est la visite de Lancelot chez l'ermite, elle apparaît dans les deux sens. D'abord, à la fin, lorsqu'il quitte l'ermite, et il trouve la recluse. Et la recluse lui dit « Lancelot, Lancelot, tant comme vous fûstes chevaliers des chevaliers terriens, si fûstes vos les plus merveilleux hommes du monde et les plus aventureux. Or, premièrement, comme vous êtes devenu un des chevaliers célestieux, ce aventure merveilleuse aux aviennes, ce n'est pas merveille. Lancelot, Lancelot, tant que vous avez fait partie de la chevalerie terrestre, vous avez été le plus remarquable chevalier du monde et le plus avide d'aventure. À présent que vous êtes engagé dans la chevalerie céleste, ne vous étonnez pas s'il vous arrive de merveilleuses aventures. » La chevalerie céleste, donc, ça veut dire que c'est le signe de la conversion de Lancelot, conversion qui vient trop tard pour qu'il soit vraiment un des élus du Graal, enfin, conversion qui le met maintenant au rang des chevaliers qui sont entièrement au service du ciel ou au service du Christ. Bon. Donc la chevalerie céleste, pratiquement, dans la chevalerie célestielle, paraît être une sorte de super chevalerie terrienne avec des aventures encore plus nombreuses, encore plus merveilleuses. On y gagne du point de vue de la chevalerie même. Ça, ce sera encore mieux. Mais un peu plus haut, l'ermite admoneste Lancelot et il lui présente le destin de Galahad, donc du propre fils de Lancelot. Non, Lancelot a quand même mérité que ce soit son fils, le grand vainqueur du Graal. Il lui présente le destin de Galahad en ces termes. Je ne cite qu'en traduction pour gagner du temps. Certes, Lancelot, c'est en vain que vous poursuivrez cette quête si vous ne voulez pas vous abstenir de tout péché mortel et détacher votre cœur des pensées terrestres et des plaisirs de ce monde. Sachez bien que dans cette quête, votre chevalerie ne vous sera d'aucun secours si le Saint-Esprit ne vous guide dans toutes les aventures que vous y trouverez. Vous n'ignorez pas que cette quête est entreprise pour voir et connaître quelque chose des merveilles du Saint Graal que notre Seigneur a promis de révéler aux vrais chevaliers. Mais ça, aux vrais chevaliers au singulier, un seul, le vrai chevalier. Ce chevalier, vous l'avez vu le jour de la Pentecôte s'asseoir à la table ronde sur le siège périlleux où nul n'a jamais pu s'asseoir sans mourir. Ce chevalier est le puissant lion qui sera de son vivant le modèle de toute chevalerie terrestre. Et quand il aura tant fait qu'il ne sera plus un être d'ici-bas, mais un être spirituel, il laissera son enveloppe charnelle et entrera dans la chevalerie célestielle. C'est-à-dire que là, le sens de chevalerie célestielle est très différent, selon le sens que la recluse, trois pages plus loin, donne au mot, à l'expression. Galahad est déjà un chevalier célestiel. Mais pour l'ermite, non. Il entrera dans la chevalerie célestielle quand il rejoindra les élus et les anges et quand il aura dépouillé son enveloppe charnelle. Et l'ermite qui accable, que rencontre Gauvin et Hector. À un moment, Gauvin et Hector Desmarets, le cousin de Lancelot, se rencontrent, chevauchent de compagnie, mais ce sont deux réprouvés qui chevauchent de compagnie, il ne peut leur arriver que des choses horribles. Et ils rencontrent un ermite qui leur conseille d'abandonner une quête dans laquelle ils ne feront rien de bon tant qu'ils seront en état de péché mortel, et il conclut ses remontrances sur ces mots. S'il ne devait pas cuidier que ces aventures qui hors cornes soient de chevaliers osir et meunier, un souhait sont des choses espériteuses qui sont grindre et meus valent assez. Et ne croyez pas que les aventures qui surviennent maintenant consistent à mutiler et à tuer des chevaliers. Ce sont des choses spirituelles d'un ordre et d'une valeur bien supérieure. Donc, le métier même de chevalier, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on est chevalier, on se bat et on court le risque et on accepte et on cherche quelquefois à blesser ou à tuer son adversaire. Mais dans la quête du Graal, blesser ou tuer son adversaire est le signe d'une malédiction. On blesse ou on tue ses amis, ses parents, ses frères d'armes qu'on n'a pas reconnus et qu'on affronte sous l'incognito du home parce qu'on n'a pas reçu la grâce de les reconnaître. Ça n'arrive pas au bon chevalier. Et toujours dans la quête du Saint Graal, il y a un trait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais qu'on n'a peut-être pas remarqué autant qu'on aurait pu le faire, c'est l'importance, d'ailleurs, verrons que dans le Père Lesvos, on pourrait faire la même remarque, c'est l'importance de la navigation. La quête du Graal oppose la chevauchée chevaleresque à la navigation vers le salut. Quand ils sont dans leur élément, la forêt, la lande, quand ils font leur métier, quand ils sont sur leur cheval, quand ils exercent leur talent et leur valeur de chevalier, les chevaliers de la quête du Graal n'arrivent à rien et ils n'arrivent nulle part. Ils errent indéfiniment, non pedum passibus, etc. Ils se croisent, ils se séparent, ils se retrouvent, ils affrontent indéfiniment les adversaires et les tentations comme s'ils se démenaient dans le vide, comme s'ils se battaient pour rien, comme s'ils étaient dans une sorte de dans un de ces rêves, n'est-ce pas, où on a beau s'agiter, on est comme ligoté. Au contraire, ils progressent quand ils descendent de cheval pour monter dans un bateau, comme Lancelot à l'eau marquoise. L'eau marquoise, c'est-à-dire la rivière qui marque une marche, là, qui est une marche, une frontière. Et si on s'abandonne à cette rivière, alors tout peut arriver et tout le bien peut arriver. Donc Lancelot à l'eau marquoise, Perceval emporté dans son île, Galahad, dont à un moment donné on ne sait que personne n'arrive à lui mettre la main dessus, on ne sait pas où il est, mais on sait qu'il navigue. Et que de temps en temps, il descend, et à un moment, on le voit, son bateau arriver, il descend de bateau, et enfin la nef de Salomon qui emmène ensuite les élus à Sarras. Eh bien, donc, ils progressent quand ils descendent de cheval pour monter dans un bateau, quand ils s'abandonnent immobiles à une navigation qu'ils ne maîtrisent pas, sur un bateau qui les entraîne vers une destination qu'ils ne connaissent pas, jusqu'à, encore une fois, que les élus se retrouvent sur la nef de Salomon. Et, encore une fois, Galahad, à un moment où tous le cherchent, navigue lui aussi, apparaissant, disparaissant, débarquant, rembarquant, quand on ne l'attend pas. Alors, certes, lui paraît maître de sa navigation. Mais il paraît maître de sa navigation, il est maître de sa navigation parce que Galahad est tellement parfait qu'il peut s'abandonner tout entier à la volonté de Dieu. Il peut n'avoir aucune volonté propre, aucune épaisseur propre, même, et tout se passe bien pour lui. Donc ça revient au même. Non. Donc il n'empêche que le meilleur chevalier du monde qu'il est n'accomplit pas sa mission à cheval, mais en bateau, non pas en guidant son cheval, ni en mettant délibérément un pied devant l'autre, ou en faisant mettre à son cheval un pied devant l'autre, mais en se laissant entraîner par une force extérieure à lui-même, cette force qui fait avancer le bateau en gonflant la voile. Cette force est le souffle du vent, hein, le souffle, esprit, pneuma. Hein, c'est être non pedibus, non pedum passibus et desideris queritur deus. Monter dans le bateau, c'est ne pas faire par la volonté, c'est pas, hein, c'est s'abandonner à ce désir de Dieu que Dieu lui-même a suscité, Dieu prévient en mettant le désir, comme nous l'avons vu dans le De Diligendo Deo de Saint Bernard. Et dans Perles Vos, dans le haut livre du Graal, Perles Vos aussi, Perles Vos, devenu roi du château du Graal, se met lui aussi à naviguer pour évangéliser les îles. Et on l'a vu brièvement dans une île au bord de la mer, auparavant, avant même d'avoir conquis le château du Graal, la première fois qu'il rencontre son oncle méchant, le roi du Châtel Mortel, sur lequel il reconquérera le château du Graal. Ces rencontres décisives et victorieuses se font dans l'abandon à la navigation. Alors évidemment, vous me direz, là encore, je pousse les choses. Perles Vos évangélise les îles bretonnes par la violence. Et nous le savons, nous l'avons déjà vu beaucoup, c'est un roman, le haut livre du Graal, qui exalte sans état d'âme la violence de la chevalerie qui ouvre la voie du Graal et du salut par la violence de la chevalerie. Mais quelle est au fond la signification de cette violence? Et parce que, enfin bon, c'est une question qui m'occupe trop, mais je reviens un instant avant de conclure ce cours sur l'énigme que constitue l'extrême violence de ce roman. Et on a souvent relevé, nous l'avons dit ici même, Armand Strubel nous l'a rappelé au séminaire, que l'auteur du Haut Livre du Graal, Perlesvos, est obsédé par la violence et qu'il l'est à un point inimaginable, en particulier, par la décapitation. La forme, sa forme favorite de violence, c'est la décapitation. Les têtes coupées, les scènes de décapitation sont partout. Le char de la demoiselle chauve, peut-être un euphémisme de la décapitation, mais enfin, c'est pas très douloureux. Le char de la demoiselle chauve est rempli de têtes de chevaliers. Gauvin est chargé de conquérir l'épée qui a servi à la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Pour ce faire, il coupe la tête du géant qui a enlevé le fils du roi Gurgaran. Lancelot, dans la gaste cité, doit affronter l'aventure, l'épreuve de la décapitation, le jeu du décapité, comme dans Sir Gawain and the Green Knight, décapiter un personnage avec l'obligation de revenir se faire décapiter soi-même au bout d'un an. Demoiselle, et d'ailleurs, quand il revient, effectivement, on commence par vouloir le décapiter et avec une faux. L'imagination. On veut le faucher. Et alors, il est là, bien sûr, et quand même, quand la faux arrive, instinctivement, il rentre le coup. Donc, bon, le coup passe au-dessus de lui. Et ensuite, son adversaire lui a dit quand même, est-ce que celui que vous avez décapité, lui il s'est laissé décapiter gentiment, c'est quand même rien du tout. Et Dieu merci, à ce moment-là, arrivent des demoiselles qui disent non, lui, il ne faut pas le décapiter, etc. Mais enfin, bon. Et la demoiselle orgueilleuse de la branche 4 a aménagé une guillotine dans sa chapelle, comme vous savez, pour pouvoir décapiter les trois chevaliers dont elle était prise, les mieux, Gauvin, Lancelot et Perlesvos, et conserver leur tête. Elle est dans son château, elle n'en bouge pas, comme une araignée dans sa toile, si je puis dire. Et alors, dans sa chapelle, il y a dans un petit placard, un réduit, un recet, des reliques. Et puis, il y a une lame qui tombe. Et alors, elle a imaginé qu'un jour ou l'autre, ces chevaliers, puisqu'ils sont des chevaliers errants, ils vont partout, passeront par là, viendront lui demander l'hospitalité. Et à ce moment-là, elle les conduira pour qu'ils fassent leur dévotion devant ces reliques, en leur disant qu'il faut mettre la tête dans le trou. Elle les décapitera et elle pourra ainsi conserver leur tête. Enfin, bon, j'insiste bêtement là-dessus, mais... Non, pas faire de mauvais esprit, mais enfin, elle est amoureuse de ces trois chevaliers, pourquoi vouloir garder leur tête, justement. Et Lancelot décapite, nous allons voir, le chevalier qu'il a vaincu à la roche Gladoin. Les têtes des chevaliers décapités ornent le château des barbes, où se pratiquent aussi des atténuations, de la décapitation, couper les barbes, mutiler, etc. Que, après avoir tué traîtreusement l'hôte, le fils du roi Arthur, le décapite. Puis il décapite le géant que l'hôte venait de tuer, pour me faire croire que c'est lui qui l'a tué. Et ce ne sont là que quelques exemples. Oui, la décapitation est une obsession de l'auteur. Mais pourquoi? Parce que la tête, c'est l'homme. Elle le désigne et, en un sens, le contient tout entier. Elle est une relique de ce qu'il a été. Les têtes qui emplissent le char de la demoiselle chauve sont des reliques serties dans des reliquaires d'or pour les chevaliers chrétiens, d'argent pour les chevaliers juifs et de bronze pour les chevaliers païens. Comme ça, je ne sais plus les bétaux exactement. Les trois têtes qu'espère obtenir la demoiselle orgueilleuse sont pour elle des reliques. Non, bon. La tête est une relique de ce qu'il a été. Elle est le moyen de l'identifier, la tête du géant, et même la tête de Lot qu'on retrouvera. Prendre la tête manifeste un triomphe entier sur l'homme et garantit que c'en est définitivement fini de lui. L'obsession de la décapitation marque une identification, j'ose pas dire une réduction, de l'homme à sa tête. C'est ainsi que résonne la demoiselle orgueilleuse et la demoiselle chauve. Seule compte la tête. De sorte qu'on peut voir là une sorte de matérialisation de la spiritualité, ou le premier mouvement vers une spiritualisation. Dans ce roman tellement incarné et tellement violent que le Père Lesvos, mais aussi dans cette tendance qu'a la spiritualité médiévale à être une spiritualité tellement matérielle dans la représentation des réalités spirituelles, dans la représentation de la géographie spirituelle, topographie spirituelle de l'autre monde, bon, etc. Eh bien, garder juste la partie du corps qui est le siège à la fois du cerveau, le siège de l'expression, ce qu'il y a, c'est garder un bout du corps, mais ce qu'il y a de moins physique dans le corps. Et il y a là quelque chose qui me paraît caractéristique de Père Lesvos. Armand Strubel, dans son introduction, écrit que le roman exalte la croisade plutôt que la contemplation. C'est absolument vrai. Mais je dirais plus volontiers que le roman propose une incarnation ou une matérialisation de la contemplation dans la vision et dans l'action. Et dans la vision qui n'est pas, et c'est mon dernier point, qui n'est pas, nous allons le voir, valorisée autant qu'on pourrait le penser. Et par exemple, Strubel qualifie l'épisode de Gauvin à la fontaine magique de laborieuse allégorie. L'allégorie est peut-être laborieuse, bien que la scène ne manque pas d'un certain pouvoir de fascination. Bah, fond de la forêt, cette clairière, cette fontaine, cette immobilité de Gauvin, ces demoiselles qui viennent on ne sait d'où. Bon. Mais Gauvin, donc moi, je veux bien que l'allégorie soit laborieuse, mais Gauvin n'en est pas moins favorisé d'une vision trinitaire essentielle qu'il introduit au cœur du mystère divin. Il voit arriver trois jeunes filles qui se fondent en une. C'est un dieu féminin, comme dirait Jacques Dallarin, que nous entendrons tout à l'heure. Et c'est pourquoi, semble-t-il, précisément parce que cette vision est à la fois si essentielle, mais en même temps si insuffisante à Gauvin pour parvenir à la perfection, c'est pourquoi l'ermite, au château de l'enquête, refusera de l'élucider. Alors qu'il donne la solution des autres aventures de Gauvin, il dit « Gauvin se fait rembarrer », comme dit élégamment Strubel. Il ne veut pas. Et on le comprend, parce que c'est une leçon très cistercienne de Père Lesvos, c'est que la vision ne suffit pas. Au château du roi pêcheur, Gauvin devant le Graal est favorisé d'une vision qui devrait faire de lui un saint, qui devrait être le couronnement absolu de sa quête. Il voit le Christ en croix. Or, sa quête est un échec cuisant. La vision, et elle est un échec cuisant à cause de cette vision. La vision l'a plongé dans une extase telle qu'il oublie de poser la question. Sa faute, ou la forme que prend sa faute à ce moment-là, c'est l'extase de la contemplation mystique. Et on observe que cette situation paradoxale, qui est particulièrement significative et profonde, en fait, devait être accréditée ailleurs que dans cette scène du conte du Graal. parce que il y a une chanson très, très célèbre à cause de cela, du troubadour Rigaud de Barbezieux, adressé comme Persabaos, de même que Perceval, qui commence, le troubadour, c'est une chanson d'amour, mais commence par se comparer à Perceval. Et dans cette chanson, le silence de Perceval a pour cause l'extase où le plonge la vue du Graal et de la lance qui saigne. Ce n'est pas le cas chez Chrétien. Nous avons vu les causes du silence de Perceval chez Chrétien. Dans le roman de Chrétien, il y a bien une extase, mais liée à un amour purement humain. C'est l'extase de Perceval devant les trois gouttes de sang sur la neige qui lui rappelle Blanchefleur. Voilà. Alors que le motif est repris dans le Perle Svos, et que c'est en voyant trois gouttes de sang sur la nappe que Gauvin entre en contemplation et voit le Christ en croix. Et donc, chez Rigaud de Barbezieux, Altresi comme Persabaos, el tans que vivia, que se sbaï des gardar, donc on not sop de mandar, de que servia la lance en il grasaos, etc., et ou sui atretaos. De même que Perceval, du temps qu'il vivait, qui tomba dans le ravissement à regarder au point qu'il ne sut demander à quoi servait la lance et le Graal, je suis dans la même situation, mieux que dame, c'est le surnom qu'il donne à son ami, mieux que dame, quand je vois votre corps, Jean, car de votre joli corps, car de la même façon, je m'oublie à vous contempler et médite de vous présenter ma requête et ne le fais pas, mais reste dans mes pensées. Et on s'est demandé si Rigaud se référait à quoi ? Au conte du Graal, à Perle Svos. Perle Svos est trop tardif si on suit la datation de Fanny Bogdanov, mais pas nécessairement non plus au conte du Graal. Le seul Rigaud de Barbezieux dont nous ayons une connaissance historique était déjà marié en 149-50 et a une activité littéraire entre 141 et 160. Enfin, pas une activité littéraire, on n'est pas sûr que ce soit le poète, mais il est connu par des documents qui s'échelonnent entre 141 et 1160. Alors, bon, il a pu vivre assez vieux pour connaître le roman de Chrétien, ça paraît peu probable si c'est lui. Ou alors, il connaissait une autre version, une version antérieure, où la contemplation provoquait le silence, où il y avait une sorte de malédiction de la contemplation. Pour revenir à mon propos, pourquoi cette contemplation inaboutie, cette contemplation à la fois prodigieuse et marquée par l'imperfection, est-elle une leçon cistercienne, ou du moins, parce que ça se trouve aussi chez les Victorins et ailleurs, une leçon marquée par la spiritualité et la théologie monastique? Parce que, comme semble que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, dans les traités spirituels qui relèvent de cette inspiration et qui décrivent le cheminement vers la contemplation, ce cheminement se fait en deux étapes. On s'élève assez rapidement jusqu'à un premier type de contemplation qui est extrêmement satisfaisant, mais qui est incomplet, auquel il manque quelque chose. Et il faut savoir s'arracher à cette contemplation, redescendre vers l'amour du prochain pour pouvoir, et donc la pratique concrète de l'amour, pour pouvoir s'élever à nouveau plus haut que la première fois jusqu'à la véritable contemplation. Ça se trouve, pour ne citer que des textes qui ont été traduits en français ou qui ont eu une diffusion hors du cercle étroitement monastique, dans le De sex sanis cherubim d'Alain Delisle, qui a été traduit, dans sermon cistercien sur le psaume 150, dont nous avons plusieurs manuscrits, dans le sermon du palmier, un texte latin, mais qui a été traduit en français, en allemand, en néerlandais, etc., et dans beaucoup d'autres textes. Ce mouvement, je vous ai dit, et c'est à ce propos que j'en avais parlé, c'est le mouvement même, enfin, où c'est une sorte, où le mouvement des romans de Chrétien de Troyes en est une sorte de transposition. Ce succès est trop facile parce qu'on n'a pas compris le sens du succès, et puis on perd tout à cause de ça, il faut reconquérir difficilement, mais dans la douleur de la conscience, ce qu'on avait conquis une première fois sans en mesurer le prix. Eh bien, dans le Perle Svos, où certes la charité est pratiquée de façon un peu rude, on retrouve la même idée. Le cheminement de l'aventure peut conduire à des expériences spirituelles extraordinaires, mais qui sont sans valeur aussi longtemps qu'on ne s'arrache pas à elles pour poser la question attendue, c'est-à-dire pour se tourner vers l'autre par le mouvement de la charité. Quel est ton tourment ? La question de lors de la seconde visite de Parsifal chez Wolfram von Eschenbach. Et donc je reviens pour finir là où à l'endroit d'où j'étais parti, au Graal, à la grâce et à la charité. Les romans du Graal dissocient l'aboutissement de la quête et son succès. Et c'est en ce sens qu'il s'écarte de l'esprit de la chevalerie et de l'esprit du roman d'aventure, où les victoires du chevalier sont le seul succès qu'il peut attendre et consacre son mérite suprême. Que cherchent les quêteurs du Graal ? S'il s'agit de trouver le château du Graal, tous le trouvent, tous y parviennent, même les pêcheurs. Le chercher n'est pas en soi un mérite, le trouver est un faible mérite. Être favorisé d'une vision christique à la table du Graal est peut-être un mérite, mais n'est pas un mérite suffisant et peut-être la marque de l'échec. Et au reste, pourquoi, encore une fois, se mettre en quête du Graal ? Qu'espérer de plus après l'apparition du Graal le jour de la Pentecôte, au début de la quête du Saint Graal ? La quête du Graal peut se décider comme par hasard. Et c'est le cas chez Chrétien après la venue de la demoiselle hideuse. Elle peut être vécue, la décision de partir à la quête du Graal, comme une catastrophe. Et c'est ce qui se passe au début même de la quête du Saint Graal. La quête du Graal, surtout, peut être un détournement ou un dévoiement de l'attention. Et je reviens à Simone Veil. Vouloir trouver le Graal, c'est privilégier la volonté au détriment de l'attention. Préférer la chevauchée où on conduit, on guide son cheval à la navigation où on se laisse pousser par le vent. C'est se condamner à l'échec. Celui qui veut plus que les autres partir en quête du Graal, celui qui est toujours le premier à dire qu'il veut partir en quête du Graal, c'est toujours Gauvin, celui qui, moins que tout autre, est capable de mener à son terme une telle quête. Perceval est le plus enragé à retrouver le château du Graal pendant les 5 années où il est le plus loin de Dieu, le plus aveugle à lui-même. Dans les romans médiévaux du Graal, la question qu'il faut poser, la question qu'il est coupable de ne pas poser, n'est jamais « où est le Graal ?» ni « qu'est-ce que le Graal ?» Après tout, ce serait ça, les questions naturelles. Mais « au service de qui le Graal est-il mis ?» et « quel est ton tourment ?» En faisant entrer la légende du Graal en résonance avec sa propre philosophie de l'attention, Simone Veil, que je citais au début de ce cours, enfin de la série de cours, ne commet donc aucun anachronisme, aucune réduction de la légende médiévale à ses propres préoccupations. Elle en dégage le sens, et elle en dégage le sens exactement tel que Chrétien de Troyes et Wolfram von Eschenbach l'avaient défini dès l'origine. Et c'est donc à elle qu'il convient de laisser la conclusion. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.